session d'introduction à la philosophie par le père Philippe à Rimont le 20 décembre 1992, quatrième cours.
Mystère du Christ, il y a une continuité, il n'y a pas de rupture. l'adhésion à la parole. On ne s'arrête pas à la parole de Dieu. On se sert de la parole de Dieu pour adhérer au mystère. C'est ça la réalité de la foi. Si j'adhérais à la parole et non pas au mystère, je risquerais de faire de la foi une sorte d'idéologie divine. Vous comprenez ? La différence, évidemment, que cette parole est une parole divine, et donc qui a un réalisme beaucoup plus grand que l'idée que j'ai à ma parole. Mais on n'irait pas jusqu'au bout. Et la perfection de la foi consiste dans ce réalisme du mystère de Dieu qui m'est donné, qui m'est révélé, qui m'est donné pour moi, pour être ma lumière. Le mystère étant justement ce qui me permet de toucher la réalité plénière qui est Dieu lui-même. La foi ne supprime pas l'intelligence. Et ça, c'est aussi très important de se le rappeler. Son courant de la grâce ne détruit pas la nature. Et la foi ne détruit pas la nature. Au contraire, si je suis un vrai croyant, la foi me permet d'aller plus loin dans ma recherche de la vérité. Et me donne soif d'aller plus loin dans la recherche de la vérité. Et donc, un croyant devrait normalement avoir une intelligence plus éveillée qu'un non-croyant. Il ne faut pas dire, ah, puisque la foi me donne tout, j'ai plus besoin d'éveiller mon intelligence. Pas du tout. C'est juste l'inverse. Si j'adhère au mystère du reste qui reste obscur, j'essaie par tous les moyens d'entrer de plus en plus dans l'intelligence de ce mystère. Que cette formule de saint Augustin, de saint Anselme, de Thomas d'Aquin, fides, quaerens, intellectum, c'est une formule extrêmement belle et qui fait comprendre naître. Saint Augustin dit ça pour justifier la théologie. Et saint Thomas le dira aussi pour justifier la théologie. Qu'est-ce que c'est que la théologie ? C'est être au service de l'intelligence de la parole de Dieu. De la parole de Dieu reçue dans la foi. La philosophie. que j'ai découvert de la vérité. Et j'essaie de mieux comprendre la parole de Dieu. Puisque Dieu n'a pas employé un autre langage que le langage de l'homme, puisque la foi ne détruit pas l'intelligence, je peux donc mettre au service de ma foi, au service de l'intelligence que je peux avoir de la parole de Dieu, tout ce que je connais. Et le propre de la théologie, c'est cette coopération de l'intelligence au service de la foi. Et par là, je découvre à l'intérieur de la foi une certaine lumière, une certaine intelligibilité. Vous voyez, je prends par exemple cette affirmation dans l'évangile de Saint Jean, dans l'épître de Saint Jean. Dieu est à vous. Cette formule « Dieu est amour », du moins cette affirmation « Dieu est amour », au plan purement humain, ça a une signification. Dieu, l'être suprême, le Créateur, l'amour, je sais à peu près ce que c'est au plan philosophique. Capacité merveilleuse que j'ai en moi d'aimer, de me donner, d'aller vers l'autre et aussi de m'aimer. Dieu est amour. Ça montre comment Dieu me regarde, non pas premièrement comme un juge. Je ne dis pas Dieu est premièrement juge. Dieu est sévère. Non, j'ai dit au contraire, selon les psaumes, Dieu est lent à la colère. Pourquoi ? Parce qu'il est amour. Quand on aime beaucoup quelqu'un, on attend longtemps avant de le corriger. S'il a fait une grosse bêtise. Tandis que quand on n'aime pas beaucoup quelqu'un, et donc on s'aperçoit qu'il fait une bêtise, on saute dessus. Et puis, quand on aime beaucoup quelqu'un, on l'excuse parce qu'on l'aime. Dieu est lent à la colère. Dieu est amour. Voyez, il y a une signification que je peux avoir au point de vue philosophique, au point de vue humain, qui me permet d'enrichir cette affirmation. Dieu est amour. Mais attention, quand il est dit que Dieu marche, vous savez, après le péché, le début de la Genèse, Adam entendit les pas de Dieu qui marchait dans le jardin. Il entend les pas de Dieu qui marche dans le jardin. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui marche dessus, on entendrait ses pas. Sans voir. Quand Adam dit, tu vois, quand la Genèse nous dit que Adam entendit les pas de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Les dieux marchent. Entendre les pas de Dieu, ça veut dire que Dieu marche. Il y a des pas de Dieu. Quand vous entendez le bras de Dieu, le bras de Dieu, est-ce que c'est la même chose que Dieu est amour? Commencer tout l'effort de la théologie. Dans la Bible, il y a tellement d'affirmations que quelquefois, il y a des affirmations qui semblent contradictoires. Qui semblent contradictoires, même dans les paroles de Jésus. Je ne parle pas en regardant les textes de Saint Matthieu, de Saint Marc, de Saint Jean, en disant il y a des différences. Dans Saint Matthieu et Saint Marc, on montre que Jésus chasse les vendeurs du temple au milieu, à la fin de sa vie apostolique. Dans Saint Jean, au début, c'est contradictoire. les récits d'évangiles, ce n'est pas un récit scientifique, historique, c'est un témoignage. Matthieu est témoin, Jean est témoin. Et donc, ce qu'on cherche, ce n'est pas premièrement l'ordre des faits qui ont existé, mais de manifester la personne de Christ. Qu'est-ce qu'il est ? Et c'est la même chose dans l'Ancien Testament. On retrouve constamment des choses différentes comme ça. Quand on voit que Jésus dit, quand on vous frappe sur une joue, offrez l'autre. Alors il y en a qui prennent ça matériellement. C'est pas toujours commode du reste. N'est-ce pas ? Mais ils le frappent matériellement. Or Jésus fait juste l'inverse. Quand il est en face des grands prêtres, et que le serviteur du grand prêtre lui donne une gifle, parce qu'il a parlé au grand prêtre d'une manière très digne, mais il n'a pas répondu exactement à ce que le grand prêtre demandait. Et Jésus n'offre pas du tout son autre joue. Et lui dit, pourquoi me frappes-tu ? Il fait juste inverse. Vous voyez, la théologie est née pour mieux comprendre ce qui nous est révélé, en mettant notre intelligence au service de la parole de Dieu. Comprendre que quand il y a une apparence de contradiction, c'est pour que nous entrions plus loin, pour que nous allions plus loin. Quand il y a dans les paroles de Dieu des paroles qui expriment une signification analogique mais propre, et puis il y a des paroles qui expriment une signification analogique métaphorique, on distingue le langage métaphorique, anthropologique, et le langage direct. Alors, quelle est cette distinction que fait le théologien ? C'est que l'amour, en lui-même, n'implique aucune imperfection. Je peux donc dire « Dieu est amour », ou plus exactement, quand il est dit « Dieu est amour », par la révélation.
Suscite en moi une attention toujours plus grande et des plus
c'est-à-dire, c'est pas direct, c'est une comparaison. Comme, c'est une similitude comparative pour montrer la manière dont Dieu agit, analogue, semblable à celle de l'homme. Vous voyez, la théologie va regarder la parole de Dieu, qui est un enseignement. Dieu m'enseigne, Dieu me parle. Mais dans l'enseignement de Dieu, Dieu enseigne quelquefois directement et Dieu enseigne par parabole. C'est dit dans l'Évangile. Et les apôtres même, selon l'Évangile de Saint Jean, à la fin de la vie du Christ, enfin, tu nous parles directement et non plus par parabole. Et c'est vrai que je crois que Jésus avait un langage par mode de parabole pour le peuple, pour les apôtres quand ils étaient tous ensemble. Et quand il avait avec lui Pierre, Jacques et Jean, il expliquait ses paraboles. Et les expliquer quelquefois pour tout le monde aussi. La parabole du bon semeur, la parabole du bon pasteur, il explique qu'est-ce que ça veut dire. Vous voyez, pour nous aider à entrer dans le mystère, bien l'œuvre du théologien est justement de bien préciser dans la parole de Dieu ce qu'il faut considérer comme me montrant, m'exprimant directement le mystère de Dieu tel qu'il est, ou au contraire la manière d'agir de Dieu parallèle à ma manière d'agir pour m'aider à entrer dans le mystère de Dieu. Alors on dira qu'il y a un langage direct, propre, immédiat, et puis un langage anthropomorphique, un langage métaphorique, on sait bien ce que c'est que la métaphore, qui est symbolique et métaphorique, qui suggère, poétique, qui aide, qui conduit vers, mais qui ne dit pas directement. Alors, si on ne fait pas attention à cela, ce qu'on appelle le fondamentalisme, qui prend tout matériellement ce volet, vous aboutissez à des contradictions effrayantes. Alors, il faut essayer, au contraire, de découvrir les différents niveaux du mystère de la parole de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du théologien. Progressivement, le théologien a regardé dans l'enseignement du Christ ces différents niveaux, et dans l'Ancien Testament, ces différents niveaux. C'est pour ça que certains pères de l'Église disent que la parole de Dieu, c'est comme un silex. Et quand on frotte une parole sur une autre parole, de là jaillit la lumière. J'aime beaucoup cette comparaison. Et c'est vrai, quand vous regardez la parole de Jésus, et que vous mettez une autre parole qui à première vue semble contradictoire, et que vous les frottez les unes sur les autres, de là jaillit la lumière. C'est dans ce sens-là que tout chrétien intelligent et qui cherche la vérité de la parole de Dieu est théologien. Tous, quand on met notre intelligence au service de la parole de Dieu, on fait de la théologie. Ce qu'on appelle la lectio divina, lire la parole de Dieu ensemble et demander un tout petit peu qu'est-ce que vous avez compris de cette parole de Dieu. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup et c'est bon du reste, c'est excellent. On aurait pu faire un exercice de lectio divina ce soir, c'est très beau, il y a des choses merveilleuses à découvrir dans la parole de Dieu. Quand on fait cette lectio divina pour essayer de comprendre la parole de Dieu dans un sens profond, on fait de la théologie. Mais le théologien professeur, alors lui, prend un ordre très spécial pour ne ne détruit pas l'intelligence. Bien au contraire, la foi permet à l'intelligence d'aller plus loin dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance de l'homme. Il y a dans l'Écriture et dans la Révélation toute une vision sur l'homme. J'aime à dire que chaque fois que Dieu parle de l'homme, il révèle à l'homme ce qu'est Dieu. Et chaque fois que la révélation parle de Dieu, il fait comprendre ce que c'est que l'homme. Vous voyez, dans la révélation, les deux sont toujours liés. Dieu et l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et donc chaque fois que je pénètre plus avant dans le mystère de Dieu, je découvre davantage l'homme. Et chaque fois que je découvre davantage l'homme, je découvre davantage Dieu. Il n'y a pas cette séparation que nous faisons nous constamment entre une anthropologie et une théodicée. Ça, c'est le philosophe qui fait cette séparation-là. Il a raison en tant que philosophe. Mais le croyant, parce qu'il adhère à la parole de Dieu et à la révélation qui vient de Dieu, le croyant, dans un regard de foi, unit Dieu et l'homme. Il les unit toujours et il essaie de mieux les comprendre. Là, vous touchez ce qu'il y a de si particulier à ce mystère de la révélation qui nous permet d'avoir un regard profond sur Dieu et par là d'approfondir plus avant ce qu'est l'homme. Oui, toute la théologie a toujours pris ça comme lumière. Et c'est pour ça que quand on a regardé l'homme, on regarde l'homme en théologien, on le regarde tout le temps comme image de Dieu, imago Dei. L'homme est écrit à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, quand nous faisons œuvre de théologien, et tout chrétien aujourd'hui est appelé à faire œuvre de théologien, je crois qu'il faut tout le temps respecter ces trois ou ces quatre dimensions de la théologie. On peut regarder comment Dieu, quand il nous parle, nous enseigne. Il y a un enseignement de Dieu dans l'Écriture. Et c'est ce que la théologie scientifique de saint Thomas nous donne avant tout. Dieu nous enseigne. Il nous enseigne non pas comme un professeur, il nous enseigne comme un père, comme un ami, comme un époux. Et c'est toujours de cette manière-là que je reçois l'enseignement de Dieu, l'enseignement du Christ. Et l'enseignement de Dieu. Dieu m'enseigne comme un ami. Dieu m'enseigne comme un époux, puisqu'il y a l'alliance de l'époux et de l'épouse par la foi, l'espérance et la charité. Et je reçois sa parole en essayant de comprendre ce qu'il y a de vérité, d'intelligible dans sa parole. Dieu a voulu m'enseigner progressivement. Il y a les 11 premiers chapitres de la Genèse qui sont avant l'histoire. Et l'histoire sainte commence avec Abraham. C'est toute l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, avec les Juifs. Une alliance particulière de Dieu avec son peuple, le peuple d'Israël, vient comme sauveur, comme messie. Il y aura donc toute l'histoire de l'Église. L'Église garde la paix.
Thank you.
théologie scientifique de saint Thomas reste actuelle. Il y a des petites modifications à faire, mais au fond très peu, tellement cette théologie scientifique est profonde. Mais la parole de Dieu se donne à travers une histoire.
Si mon intelligence
Oui, comprenez bien, perverti par une idéologie. Et que j'essaie de mettre mon idéologie au service de la parole de Dieu. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans toute une tendance. On essaie de faire une théologie à partir de la philosophie hégélienne. C'est un courant très impressionnant. Ça a commencé en Allemagne, chez les théologiens protestants. Ça a gagné le catholicisme. Et de l'Allemagne, ça a gagné la France. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est une idéologie qui se met au service de la foi? Il faut essayer d'y réfléchir. Quand c'est une philosophie réaliste qui, elle, sait ce qu'est le réel, où elle le cherche au moins, et qui comprend ce que c'est que l'amour, on comprend comment l'intelligence peut être au service de la parole de Dieu, qui est une parole qui conduit à un mystère, qui est une réalité, la réalité, et une réalité qui est amour. Mais si mon intelligence est saisie par une idéologie, que fait l'idéologie? Que développe-t-elle l'idéologie? L'idéologie ne développe pas la réalité existante. Elle part de la signification des idées. C'est le propre de l'idéologie. Descartes le dit expressément. Et très nettement, il dit qu'il va dans un sens inverse d'Aristote, à la place de regarder d'abord la réalité existante, il regarde d'abord la signification de l'idée. Et puis il se demande ensuite si cette signification de l'idée est réelle ou exprime quelque chose de réel. Il l'applique à la réalité. Si donc je développe en premier lieu la signification des mots, la signification exprimée par telle ou telle parole, indépendamment du point de vue de l'exister, je demeure dans l'ordre du possible. C'est le propre de l'idéologie. Les idéologies demeurent dans le possible. On m'avait demandé une fois de faire une conférence à Genève sur quelle sera pour vous la philosophie pour l'an 2000. Donc le possible. J'ai dit que la philosophie, c'était la philosophie du réel. L'an 2000 n'existe pas encore. Donc je ne peux pas faire de la philosophie de l'an 2000. Point à la ligne. Il n'y a plus qu'à m'asseoir après. La conférence est terminée. Le philosophe ne fait pas la philosophie des possibles, des futuribles, comme on dit aujourd'hui. Parce qu'il y a la philosophie des futuribles. On le prévoit. Pour ça, il faut être prophète. Alors, le philosophe n'est pas prophète. Quand le philosophe commence à être prophète, il n'est ni prophète ni philosophe. Alors, ça va très mal. Il n'a plus qu'à s'asseoir et se taire. Et attendre que ça arrive. Vous voyez, je ne peux pas faire la philosophie une fermette.